candidate à l'élection présidentielle pour affirmer les intérêts du camp des travailleurs contre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent continuer à servir ceux de la classe capitaliste. Avant tout, et pour le confort de tous, je vous demanderai de couper vos portables ou de les mettre au minimum en mode silencieux, qu'on ne soit pas dérangé du tout pendant ce meeting, ça serait vraiment très agréable. Je vais maintenant vous présenter la tribune. Tout à ma gauche, Mink Takaoué. Représentante départementale de lutte ouvrière dans les Ardennes. À ses côtés, Vincent Varlet. Envoyé à la mairie de Reims, et à côté de moi, bon, bien sûr, Nathalie Arthaud, porte-parole. Et moi-même, Thomas Rose, porte-parole régionale, pour la candidature Nathalie Arthaud à la région. Et maintenant, bah, Nathalie, je vais te passer la parole. T'as tout ? Bon, bah alors, bonne intervention, bon meeting à vous.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, le Conseil constitutionnel a enregistré 623 parrainages pour ma candidature. Je suis donc bel et bien candidate à cette élection. Évidemment, je resterai une petite candidate aux yeux des médias. Vous le savez, mais mis à part les 15 derniers jours où il existe une stricte égalité de parole, les grands médias vont continuer d'organiser deux campagnes parallèles. Vous savez, c'est un peu comme dans les festivals. Il y a le in et il y a le off. Voilà, il y a le in avec 5 grands candidats qui vont avoir le droit donc de débattre entre eux et de s'expliquer en long, en large et en travers. Et puis le off avec les petits candidats qui vont grappiller quelques minutes d'interview par-ci, par-là. Alors c'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et le pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Cela s'appelle, d'après le CSA, le principe de l'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données par les sondages. Alors quand on ne sait même pas que vous êtes candidate, c'est un petit peu compliqué. Alors oui, le système médiatique est bien verrouillé, mais il ne faut pas non plus s'en étonner. Hein. Les travailleurs qui manifestent ou sont en grève ne sont pas mieux traités. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent leur pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie qui est réellement dans le système et qui ne l'est pas. Alors pour nous, c'est une reconnaissance finalement. Oui, nous ne faisons pas partie du paysage et nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste et nous n'aspirons pas à en faire partie. Et si je participe à cette élection présidentielle, ce n'est pas pour jouer le même jeu électoraliste que les autres. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi, n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités, peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société, à condition bien sûr qu'ils en soient conscients et à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Alors, dans cette élection, eh bien, j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les employés, les chômeurs à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle à affirmer une politique de classe un programme pour les travailleurs. Je les appelle à un vote de conscience et de combativité ouvrière. Les commentateurs politiques parlent d'une campagne où tout est possible. Et cette campagne offre en effet un spectacle assez inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon inattendue. Et puis, en plus de ce casting renouvelé, eh bien, on a droit à des rebondissements, avec des désistements, des ralliements, des tractations d'appareils, avec des divisions, et puis bien sûr avec des démêlés judiciaires. Oui, pour la première fois, je crois, nous aurons donc un candidat à la présidentielle mis en examen. Alors, oui, cette campagne, avec ses coups de théâtre, ses hommes politiques, donc mis en examen, a de quoi surprendre, mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système à bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité ceux qui gouvernent depuis des décennies. Et elle remet en cause l'alternance gauche-droite et elle engendre cette décomposition politique que l'on voit autant du côté de la droite que du côté du Parti socialiste. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa prochaine majorité parlementaire. Dans les mois à venir, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais il y a une chose certaine, c'est que les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées. Quelles que soient ses péripéties politiciennes, le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds, tout simplement parce que tous ceux qui sont susceptibles d'arriver à l'Élysée sont les serviteurs dévoués de la bourgeoisie. Fillon, eh bien Fillon, c'est le porte-parole par excellence du grand patronat. D'ailleurs, il lui ressemble, comme deux gouttes d'eau. Son arrogance, ses leçons de morale du genre « faites ce que je vous dis, pas ce que je fais », eh bien c'est l'arrogance et c'est le mépris de la bourgeoisie pour le monde ouvrier. Quant à son programme, c'est bien simple, il a repris l'intégralité de la politique du MEDEF, la fin des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Autrement dit, il déclare la guerre aux travailleurs. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au grand patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche. C'est la remise des bus sur les routes. Et puis c'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Macron ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte des grands groupes capitalistes. Et puis, quel est le programme de Macron? Eh bien, la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande, donc la même politique qu'on a depuis 10 ans, avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'ISF, continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, et puis de l'autre, la suppression de postes de fonctionnaires, pour Macron c'est 120 000, l'augmentation de la CSG, c'est 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à la troisième du lot, Le Pen, eh bien Le Pen c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Elle aussi, elle prévoit des suppressions d'emplois dans la fonction publique et des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 euros de prime pour augmenter les plus bas revenus. Et où veut-elle prendre l'argent? Eh bien sur ce que coûterait l'immigration. Autrement dit, elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce. Elle veut s'en prendre à des travailleurs, parfois ici, depuis 5 ou 10 ans, en taxant leur contrat de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants. Elle veut donc s'en prendre à des ouvriers, à des intérimaires, à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle brandit exactement la même politique que le grand patronat, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Alors, aux copains de boulot, aux voisins, aux parents qui est tenté par le vote Front National, eh bien nous pouvons dire laisse ce vote aux racistes, aux grenouilles de bénitier, aux nostalgiques de la France à papa, laisse ce vote à tous ceux qui accusent les chômeurs d'être des assistés ou qui pensent que les ouvriers ne travaillent pas assez, mais toi, vote pour tes intérêts de classe, vote pour ton camp. À gauche, Hamon veut faire entendre une toute autre musique. Pour faire oublier le bilan des années Hollande, il s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Ce revenu universel a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, c'est de l'encre qui a été gaspillée. Parce que Hamon l'a déjà enterré, son revenu universel, sous la pression de l'aile droitière du Parti socialiste. Habituellement, les socialistes renient leurs promesses une fois arrivés au pouvoir. Eh bien là, la promesse n'a même pas eu le temps de finir la campagne électorale. Alors, c'est dire que Hamon est le digne héritier de Mitterrand, de Jospin et de Hollande. Macron, Fillon, Le Pen, Hamon s'opposent. Mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Donc leur politique consiste à les amadouer, à les bichonner. Il faut toujours que les travailleurs se plient et acceptent de faire les quatre volontés patronales. Eh bien moi, je suis candidate pour dire exactement l'inverse. Je suis candidate pour dire que les forces vives du pays, c'est nous. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie, mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnaud, les Bettencourt, les Mulliez, les Soufflet, sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans conducteur de train, sans pilote d'avion, sans leurs femmes de ménage, leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux, leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune ? Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe capitaliste qui est minoritaire et qui est parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires et avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui louche du côté du Front National, eh bien il faut que ce camp se manifeste dans cette élection. Il faut que le camp des travailleurs mette en avant ses intérêts, sa politique, son programme. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois sans commande assurée. Eh bien nous, salariés, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens, eh bien, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez Peugeot Citroën. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices. Et l'année 2016, PSA a explosé ses records puisqu'il a réalisé 2,15 milliards de bénéfices. Eh bien, sur les trois dernières années, PSA a supprimé 17 000 emplois. Sanofi réalise 5, 6, 7 milliards depuis maintenant des années et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore aujourd'hui des centaines. Et c'est vrai dans le secteur bancaire, c'est vrai dans le secteur des assurances, c'est vrai ici, je l'ai appris puisque Thomas m'en a parlé, avec ING Direct, un grand groupe bancaire aussi qui supprime 53 emplois ici. Donc, ces grands groupes capitalistes, hein, eh bien, ce sont aussi les plus grands fabricants de chômeurs. Alors, la première des choses, eh bien, c'est de les empêcher de nuire. Et je n'oublie pas, bien sûr, les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi concernés par les licenciements. Mais bien souvent, leur situation dépend de ces grands groupes. Alors, il faut imposer que tous ces groupes capitalistes et que les banques soient mises à contribution et qu'ils payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Et parallèlement, il faut créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là, et pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible en imposant que le travail soit réparti entre tous. La répartition du travail serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail, dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public. La charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail auxquels il faut rajouter le temps de transport sont devenus insoutenables. Eh bien, il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui se passe dans quasiment tous ces grands groupes avec les plans de compétitivité qui imposent des heures sup obligatoires et des samedis travaillés. Et puis, regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières? Est-ce qu'il y a trop d'aides-soignants dans les hôpitaux? Regardez l'éducation nationale, il y a trop d'enseignants. Pour ce qui est des logements, il manque 1 million de logements accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société et donc il y a autant d'emplois à créer en face. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Et j'insiste là-dessus parce que le chômage, c'est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, il pousse à l'individualisme et à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre. C'est de là que naît la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. De cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Non, si on veut une augmentation du SMIC, il faut qu'on se la paye. Pourquoi? Parce que, dit-elle, elle ne voudrait surtout pas créer des difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner, même tout simplement à se nourrir. Les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Eh bien, Le Pen et tous les autres grands candidats s'en moquent. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, et parfois davantage, 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer aussi les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et il faut, bien sûr, après tout cela, payer les impôts. L'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec les enfants, c'est encore bien plus serré. Alors, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, ils doivent être eux aussi transformés en salaire, parce que tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une société utile, à une activité utile dans cette société. Et ces 1 800 euros ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 150 euros net, était de 1 euros net. Déjà à l'époque, il avait pris du retard sur l'inflation. En 10 ans, le SMIC a donc augmenté de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté le salaire des PDG du CAC 40 en 10 ans ? De 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires et les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes, des péages d'autoroutes. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation ou sa facture d'électricité avec celle de l'année précédente pour se rendre compte que les prix augmentent. En réalité, entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. La société est riche, elle est très riche. Eh bien, il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et au besoin sur leur fortune accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner, et avec le secret des affaires, eh bien, la loi est faite pour les couvrir. Prenez l'exemple de Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins, et que ce sont 2000 emplois qui sont sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Le gérant d'un magasin, il est payé 1 400 euros net. Et puis, tous les autres employés, eh bien, sont payés autour du SMIC. Ce qui a tué ce groupe, Vivart, ce sont des fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui ont forcé les différentes enseignes à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît ? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds capitalistes, à des taux de 11, de 12%. Alors si les salariés de ce groupe avaient connu toutes ces manœuvres financières, eh bien ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et se défendre. De fait, les travailleurs savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG parce qu'elle le prépare, parce qu'elle le tape et parce qu'elle l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations par ses lèvres, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur tout l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent, et d'ailleurs ils le craignent. Et c'est la raison pour laquelle ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il nous revient de lever ce secret des affaires. Et cette mesure, ce serait un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en nous donnant de nouvelles armes, parce qu'il en serait fini du chantage patronal, il en serait fini des rumeurs et des fausses informations. Nous saurions à quoi nous en tenir, nous pourrions anticiper, nous organiser face aux attaques patronales et même prendre l'initiative pour imposer nos intérêts de travailleurs. Et puis bien sûr, en ayant accès aux véritables comptabilités de tous ces grands groupes, eh bien, on mesurerait aussi ce que rapporte l'exploitation et on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'embaucher et d'augmenter les salaires dans tous ces grands groupes qui dominent aujourd'hui l'économie. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins et ce sont des objectifs de lutte collective. Et bien sûr, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. Qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement, mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis et nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat des idées, dans le combat politique. Et le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans cette direction, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec toute cette palette de partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, et si la confusion règne dans beaucoup d'esprits, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Eh bien, le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections, parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et en permanence contre la politique anti-ouvrière qui est menée par les gouvernements de droite et de gauche qui se succèdent. Et cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Il faut un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer de grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de grève en manifestation, eh bien tout cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque aujourd'hui tant à la classe ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Eh bien, il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1300 euros, les vraies 35 heures. Eh bien, c'est loin, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable. Parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. Parce que c'est bien beau de dénoncer la finance, de faire des grandes envolées lyriques. Je vous rappelle que Hollande l'avait fait superbement en son temps, en 2012. C'est le discours du Bourget, tout le monde s'en souvient. Le problème, c'est de dire si l'on est prêt ou pas à renverser la finance. C'est-à-dire si on est prêt ou pas à l'exproprier. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie sur l'économie, pas la propriété privée sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris avec Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Le pouvoir reviendrait au peuple. Tout ça, ce sont des mots en l'air. Parce que les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc. C'est Bettencourt, la reine des cosmétiques. C'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on est exploité, quand on appartient au monde ouvrier, eh bien on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle de l'Europe. Quand on appartient à la classe ouvrière, on est dépendant de cette classe capitaliste qui possède les capitaux et qui a le pouvoir sur nous de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire complet ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail, y compris quand on est étudiant. Comment choisit-on ses études? En fonction de ses envies, de ses passions? Ben non. En fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Et puis, parler de souveraineté, c'est aussi une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs de France et la bourgeoisie de France. C'est brouiller les consciences et c'est une façon de détourner les travailleurs de leur véritable combat, le combat de classe. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté et de France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux des mouvements ouvriers, c'est-à-dire l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète et émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à l'affirmer, à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour le porter à la présidence de la République, eh bien, notre campagne nous aidera, nous, à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Alors oui, le vote pour moi sera un vote constructif. Malgré tout toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner. Nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et qu'elle pouvait s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective, une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, eh bien, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, surtout, il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associées à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus en déformant, en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, nous pouvons être fiers de ce que notre classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre, et il fait aussi le lit de la délinquance et de ce fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés, que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur cette question des frontières, les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches, nous disent-ils. Et tous, de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs bombes et par leurs manœuvres politiciennes. Ils la fabriquent ici par le chômage et par la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Exactement comme ils expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer partir à la retraite à 60 ans. Alors, en tant qu'exploités, nous devons avoir conscience, d'abord, que nous sommes tous des migrants potentiels. Et nous devons avoir conscience que ce n'est pas qu'une question de solidarité. Cela va aussi de notre intérêt collectif. Il faut nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons, et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toutes les origines et de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors oui, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien, il représente une force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et de l'exploitation, mais aussi débarrassée du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Écologique, parce qu'il en va de la préservation de l'environnement comme du reste. Tous les politiciens font des promesses, mais au pouvoir, ils sont bien incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, eh bien, on peut parler de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, mais on parle pour ne rien dire. Alors oui, bien sûr, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie. Ils illustrent la nécessité d'organiser collectivement les immenses moyens de production dont nous disposons, et cette nécessité de les planifier en fonction des besoins de tous, et cela, seuls les travailleurs peuvent le réaliser. Alors oui, voilà tout ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste, la perspective d'une société vraiment humaine. Oui. L'élite dite intellectuelle nous explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Et aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés de rentiers ? Évidemment non. De femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers souvent les plus pénibles, qui galèrent avec des petits boulots au chômage. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle aussi est le produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers d'être indépendants il y a un ou deux ans, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe, et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée dans la rue, en grève. Il y avait encore beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, dans les entreprises. Eh bien, il faut que cette classe ouvrière, elle s'exprime sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement, le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous le choisiriez ? Eh bien, dans cette élection, c'est la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté au patronat pour qu'il nous exploite et qui baissera nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre. L'enjeu ne doit pas être de les départager. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à s'exprimer collectivement, à voter pour ma candidature, sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Et puis croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire de façon à se protéger, c'est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement, s'il ne renoue pas avec le capital politique du mouvement ouvrier. Quant à s'abstenir, eh bien, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis, c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Alors il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, au contraire, la moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes, c'est vrai, à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien on peut être fier d'être à contre-courant. De lutte ouvrière. Les institutions sont faites ainsi. Il fallait un nom et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne personnelle et ce n'est sûrement pas une campagne individuelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé quand on m'en laissera la possibilité. Une campagne médiatique comme celle-ci, menée, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de femmes et d'hommes. Et parmi eux, il y en a plusieurs centaines de milliers qui partagent, à un degré ou à un autre, ces idées. Et ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions et c'est déjà quelque chose de très important. Mais bien plus largement, il y a tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes, tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même plus entendre parler de politique et de vote. Ils sont dans nos familles, ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot, et c'est vous qui pouvez les toucher, en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ces idées parmi les nôtres est quelque chose d'important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent. Parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société, elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés, alors tôt ou tard, ils chercheront ces idées, ils en auront besoin. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles, et pour que ce soit une bonne campagne, pour que ce soit une campagne réussie, bien vous l'avez compris, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne, il faut que ce soit votre campagne. De l'élection en mai prochain, qu'est-ce qui aura changé pour nous ? Eh bien, nous irons au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, eh bien, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est ce qui préparera le mieux les travailleurs aux luttes que forcément nous aurons à mener.